Résignons-nous.
Carte blanche.
C'est eux qui employaient la menace du gros bâton.
La carte blanche de Stéphane Bureau.
Stéphane, bonjour.
Salut, Philippe Vincent.
Avant de parler de choses sérieuses, j'aimerais te faire écouter un extrait de notre ami Tucker Carlson aux États-Unis qui se demande pourquoi les Américains n'investissent-ils pas le Canada. On va écouter ça.
We're spending all this money to liberate Ukraine from the Russians. Why are we not sending an armed force north to liberate Canada from Trudeau? And I mean it.
On est en train de devenir Cuba au Canada à cause de Trudeau, alors nous devrions envahir le Canada.
C'est une proposition assez audacieuse. Mais je dirais que depuis février dernier, en fait, depuis le mouvement de protestation à Ottawa avec les caméras...
C'est vrai.
On est devenu très présent sur l'écran radar de Tucker Carlson, le Canada, régulièrement et particulièrement M. Trudeau. Il l'a pris en grippe et ça revient régulièrement. Enfin, jamais, je pense, le Canada n'a été aussi présent dans les médias américains que depuis les manifestations de février dernier. Puis pour Tucker Carlson, c'est resté un thème à chaque fois.
Trudeau incarne ce que cette droite-là n'aime pas du tout. Là. C'est ce wokisme, la gauche multiculturelle, pro-immigration, qui a pas...
Le multiculturalisme, probablement, au sens où M. Trudeau l'entend.
Oui, c'est ça, oui.
Je pense que c'est clair que... Parce que moi, là-dessus, j'ai toujours beaucoup de difficultés à déterminer si t'es à gauche parce que t'es diversitaire ou sur le multiculturalisme. C'est une position, évidemment. Mais la gauche, pour moi, c'est davantage encore. Et sur ces enjeux-là, effectivement, Tucker Carlson ne se gêne pas pour ramasser M. Trudeau, comme s'il était devenu presque un personnage du paysage politique américain. C'est très rare dans l'histoire. J'ai passé beaucoup de temps dans ma vie aux États-Unis. Très rarement, sinon jamais, un personnage politique canadien a occupé tant d'espace. Alors, tu me diras qu'il s'en passerait peut-être. Mais si tu dis Justin aux États-Unis, on sait que tu parles de Justin Trudeau. Et effectivement, il occupe beaucoup, beaucoup d'espace dans le pare-brise de Tucker Carlson.
Bon, tu veux me parler de désir aujourd'hui?
Entre autres, effectivement, sinon de Frédéric Lenoir, qui va être présent ce soir à l'émission Au Monde à l'envers, philosophe, sociologue, je ne sais pas si tu l'as déjà lu.
Oui, mais pas au complet. J'ai comme lu des bribes ici et là.
OK, parce qu'il y a quand même pas mal de bribes.
C'est quoi, il y a une cinquantaine de livres, hein?
Exactement, c'est un auteur à succès, disons-le, hein, qui cartonne plutôt fort. Une dizaine de millions de livres vendus, traduits dans plusieurs langues. Et je pense que c'est ça le compte, une cinquantaine de livres. C'est un gars très sérieux qui rend la philosophie accessible à tous. Ça fonctionne très bien. Très populaire au Québec. Ses détracteurs pourraient dire que c'est de la psychopop à la sauce américaine, parce qu'il est très rare dans le monde qu'on fasse l'unanimité. Puisque tu m'as amené aux États-Unis par le biais de Tucker Carlson sur cette question de la psychopop, moi, personnellement, je fais partie de ceux qui pensent que ce qu'on appelle le courant de la pensée positive, qui s'est beaucoup inventé aux États-Unis à partir de la mi-temps du 19e siècle et qui...
Le secret, après ça.
Comment?
The Secret et tous ces livres-là.
Je dirais que ça a fonctionné aussi en termes de recettes. On peut dire que ça a très, très, très bien fonctionné. Mais oui, t'as raison. Le secret est un peu le résultat lointain de ce qui était beaucoup en ébullition au début du 20e siècle, tournant du 20e siècle. Napoléon Hill, plusieurs auteurs sur justement la force du mental, ici pour paraphraser une phrase célèbre dans la culture populaire québécoise. Le mouvement s'alimente pour beaucoup de la pensée d'un philosophe qui est presque un mystique, un Européen, un Suédois, Emmanuel Swedenborg, qui est aujourd'hui pas mal oublié, mais c'est le fleuve matriciel à partir duquel beaucoup de ces gens se sont inspirés. Je sais pas si tu as déjà tout entendu parler de Mary Baker, la fondatrice de la Christian Science Church aux États-Unis.
Non.
Il y a aujourd'hui un journal, qui est moins, je dirais, costaud financièrement qu'il l'a déjà été, le Christian Science Monitor, qui est le journal de la Christian Science Church, qui est un journal très sérieux. Que quand j'étais correspondant, je lisais à Washington parce qu'il y avait justement, je dirais, une équipe éditoriale redoutable. Mary Baker est la fondatrice de la Christian Science Church. C'est un personnage fascinant. Et tout ça est lié. On va arriver à Lenoir, personnage de femme assez révolutionnaire, qui est rarement d'ailleurs présenté dans le panthéon du féminisme moderne, mais qui joue un rôle très important dans la culture américaine et aussi dans le développement de cette pensée positive qui est souvent aux États-Unis associée à différentes églises. Je dirais qu'aujourd'hui, tu me parlais du secret, le secret. Tony Robbins est probablement le représentant le plus
articulé
de la tradition. C'est quelqu'un, au risque d'en choquer plusieurs, moi, qui m'intéresse beaucoup et que j'ai souvent suivi, lu. Il a fait des sommes qui sont souvent, pas souvent, régulièrement intéressantes. Donc, quelqu'un qui m'intéresse.
C'est, je pense qu'il y a un documentaire là, sur lui, sur Netflix. Là, c'est comme une grosse conférence. Là, il y a 200-300 personnes. Là, puis, lève-toi, parle.
C'est son grand powwow annuel en Floride. Donc, effectivement, pour plusieurs, c'est à la frontière du gourouisme. Je ne le pense pas. Je pense que c'est un garçon extrêmement brillant. Ça a été le coach de plusieurs équipes professionnelles. Je pense qu'à une époque, il avait été le coach de Los Angeles, les Kings. Quand je dis coach, mental coach, je me rappelle qu'il était venu à Montréal et que Nathalie Petrovski s'était payé sa tête justement pour ses allures de gourou. Mais c'est une tradition riche, donc, cette pensée positive. Notre ami Lenoir, tu me diras, long détour, n'est pas à classé dans la même catégorie parce qu'il n'y a rien de religieux chez lui.
Il est plus comme vulgarisation philosophique. Moi, dans ma tête, c'était plus ça. Là, oui, Spinoza expliqué aux enfants ou Socrate, Bouddha.
Donc, rien de religieux, sinon peut-être un amour philosophique, comme tu le dis, de ce que j'appellerais la parole évangélique, la parole du Christ, qui en son temps, si on accepte qu'il a existé, le personnage était assez révolutionnaire. On a ça n'a rien à voir ou à faire avec l'institution de l'Église catholique, avec ses règles toujours un peu castrantes, ses conceptions du péché. Lenoir, c'est un vulgarisateur de ce que la tradition philosophique peut nous enseigner pour apprendre peut-être à mieux vivre. Son maître, tu l'as dit, c'est le grand penseur Baruch Spinoza, penseur du 17e siècle. Ça l'inspire depuis longtemps. Sa pensée à Spinoza est au cœur de plusieurs des livres de Lenoir. Puis son dernier bébé à Frédéric Lenoir, Cultiver le désir et vivre aux éclats, fait pas exception. Il me semble être peut-être du nombre des livres qu'il a produits autour de la pensée de Spinoza le plus utile pour comprendre simplement cette méthode, la méthode de Spinoza ou son esprit, parce que son idée, une de ses idées forces, était assez révolutionnaire en son temps. Nos désirs ne sont pas coupables. Puis le mot est aussi intéressant puisqu'il renvoie à quoi quand on pense, quand on dit désir, à quoi tu penses, toi?
Ben, il y a plaisir coupable, il y a consommation, il y a toute la sexualité.
Pulsion sexuelle aussi, beaucoup.
Ah, oui.
Parce que c'est souvent associé à ça. Quand on parle de désir, on parle de désir sexuel. D'ailleurs, en son temps, il va être accusé d'avoir fait ou de faire la promotion du libertinage, l'ami Spinoza. Or, le désir, les désirs sont un horizon qui est beaucoup plus vaste. Même si on peut jamais négliger la question de la sexualité, c'est une pulsion, une force importante dans nos existences. Les désirs, donc, comme moteur, force de traction dans nos vies, puissance vitale, placée au cœur de notre action. L'intuition de Spinoza, puis c'est repris par Nietzsche, par Carl Gustav Jung, qui lui décrit justement la libido, qui est d'abord l'affaire de Freud, mais qui en faisait un truc uniquement sexuel. Pour Jung, la libido, c'est justement pas ça, seulement une force sexuelle, mais davantage une énergie qui oriente notre quête de sens. Et c'est là que se fait l'aiguillage, dans le sens qu'on donne à nos désirs, pour reprendre la formule publicitaire qu'avait, avec beaucoup de succès, mise à profit Desjardins, je ne sais pas si tu t'en souviens, la différence entre l'être et l'avoir, ou l'avoir et l'être.
Conjuguer avoir et être.
Exactement. Les verbes, évidemment, quand ils sont conjugués, induisent beaucoup de choses. Les désirs conditionnés par l'avoir sont illimités et nous condamnent très probablement aussi au dépit, à l'envie. Il y a le vice-président de General Motors qui a déjà déclaré que la clé de la prospérité économique moderne, c'était la création d'une insatisfaction organisée. Hmm. C'est pervers, mais tellement juste. La création d'une insatisfaction organisée. Le Noir, dans son dernier livre, c'est aussi l'économiste de Boston, de Cambridge, qui a enseigné à Harvard, John Kenneth Galbraith, que j'aime beaucoup. L'individu, j'ai ouvert les guillemets, l'individu sert le modèle industriel non pas en lui apportant ses économies et en lui fournissant son capital, mais en consommant ses produits. Il n'y a d'ailleurs aucune autre activité religieuse, politique ou morale à laquelle on le prépare de manière aussi complète, aussi savante et aussi coûteuse. On est ici donc dans la matrice de Matrix avec le désir qui peut confiner une espèce d'enfermement continuel parce que c'est le désir tourné sur l'avoir. Si on conjugue la force du désir avec le verbe être, on est évidemment ailleurs. On se retrouve sur le chemin de nos destins, le tien, le mien, de notre quête héroïque d'accomplissement parce que je pense que c'est héroïque que de s'accomplir, de vivre son destin. Ça a l'air lyrique, mais je crois sincèrement que c'est la seule mission que nous avons sur Terre. Jung parle de ça. Joseph Campbell, je ne sais pas si ça dit quelque chose, mais qui s'est beaucoup intéressé justement au mythe et au cœur des plus profonds mythes, c'est notre accomplissement héroïque. Ce que Jung, lui, va appeler le processus d'individuation qui nous permet de nous regarder pour ce que nous sommes, y compris dans ce qu'on a de plus sombre, et par la force de notre désir d'être unique, différent, de s'accomplir, on réussit quelque chose. C'est bien de la job, by the way, mais c'est notre seul vrai chantier. Nietzsche parlerait de l'amor fati, embrasser notre destin, se faire, se construire. Et avec Le Noir, ben j'ai eu le bonheur de passer du temps, avant l'entrevue que je vais faire ce soir, j'amorce une série de balados, de podcasts, et c'est mon premier invité. On va lancer ça ce soir. Puis on a dépassé, je dirais, ce qui est couvert dans son livre pour parler de ce que sont nos instincts profonds, par ailleurs. Parce que si le désir peut nous libérer, il a le sentiment que depuis toujours, on veut peut-être pas tant que ça, la liberté. Que la question de la servitude volontaire est encore très présente. Et justement qu'on a pu la valider au cours des dernières années. Est-ce que c'était nos gouvernements qui voulaient nous mettre à l'abri de la COVID, par exemple, ou notre appétit à tous d'être rassurés, d'être pris en main, de nous garantir le danger zéro? Donc, ce combat entre l'aspiration qu'on a peut-être à la servitude et ce que c'est que de vivre une vie réussie, c'est-à-dire s'accomplir, s'individuer, pour reprendre le mot de Jung. C'est des choses que je vais discuter. Ça a l'air très sérieux tout ça, mais c'est passionnant que je vais discuter dans mon balado, qui est fait, qu'on lance ce soir, tout de suite après la diffusion.
Dans le monde à l'envers.
Au monde à l'envers avec le noir pour 8-9 minutes, mais 50 minutes au balado qui sera disponible sur la plateforme de Cube à partir de ce soir.
OK, donc c'est quand même une bonne discussion. T'es presque dans les temps de Joe Rogan, là.
Je dirais que j'ai fait quelque chose avec un autre personnage qui m'a ravi, je t'en parlerai plus tard, qui enseigne à McGill. On a fait 1h40. Oui, ça a quelque chose de Joe Roganesque. Mais c'était passionnant. Et là, on parlait des questions d'identité de genre, un territoire miné, tu peux l'imaginer, mais aussi passionnant, reflet de ce qui nous déchire aujourd'hui. C'est pour plus tard au balado. Ça s'appelle Contact. J'ai repris contact avec une bannière que j'ai eue pendant longtemps à la télévision, ma série Contact, puis je suis revenu à ça. Ça sera disponible sur YouTube, mais d'abord et avant tout.
Ben, ça va être filmé aussi. Là.
Je suis un homme moderne. Je serai partout.
Stéphane, tu es partout déjà, dans nos cœurs. Non, mais c'est intéressant, mais je suis content de ça, parce que c'est vrai que des fois, puis tu l'avais dit après Julien Lacroix, par exemple, des fois, 7-8 minutes, surtout quand c'est des questions plus, je vais pas dire lourdes, complexe. Mais plus complexes, ouais, c'est ça, comme la philosophie, nos désirs, l'identité de genre, faut prendre le temps, des fois, d'aller jusqu'au bout, là.
Et Frédéric Lenoir est un invité exceptionnel, vraiment. C'était un plaisir que de me retrouver dans l'exercice long format, 55 minutes. On en parlera lundi quand tout sera en ligne, mais ça m'excite, je trouve que c'est bien le fun.
J'ai des devoirs ce week-end d'aller regarder ou écouter ça. Ça s'appelle Contact. Stéphane, bonne fin de semaine.
Ciao.
Bonne émission ce soir. Le Monde à l'envers à TVA. Salut.